Get ready for the next battle.
Il s'entraîne depuis un mois dans la Kame House.
999 pompes, c'est très insuffisant.
Ils ont répété leurs meilleurs combos et leurs coups spéciaux les plus puissants.
Hadouken!
Les chroniqueurs de Touche pas à ma console sont prêts pour une heure de show endiablé et de chronique dans la face.
Et oui, ils sont prêts. Enfin, ils sont presque prêts, hein, parce que visiblement, il y en a un qui n'est pas prêt. Bon, François, toi, tu es prêt ?
Oui, je suis totalement prêt.
Bon, voilà ça, voilà. Bon, Thibaut, tu es prêt ou pas ?
Toujours.
Eh ben, alors, c'est parfait. On peut commencer cette formidable émission. L'émission de février de Touche pas à ma console, donc hein, tous les mois, le deuxième samedi du mois, sur prune, www.prune.net et à l'antenne en direct sur le 92 FM. Et aujourd'hui, émission spéciale, alors pas l'émission en elle-même, hein, le contenu à l'antenne, ce sera une émission comme on en fait chaque mois, mais disons ambiance spéciale dans le studio un petit peu, puisque aujourd'hui c'est les portes ouvertes de Prune.
Oh, donc, tu me déçois. Je croyais que tu allais dire que c'était la Saint-Valentin, je te croyais beaucoup plus lover.
Oui, bah écoute, si tu veux. c'est aussi la Saint-Valentin. Bah, écoute, Thibaut, tu m'offriras des fleurs après l'émission. Oui, c'est les portes ouvertes de Prune. Vous pouvez venir voir nos têtes dans le bocal du studio. Vous pouvez visiter nos locaux. Et vous pouvez même passer la porte du fond du hall pour aller visiter les locaux de nos voisins de Sun, qui sont au même étage que nous. Hein. Il y a juste un mur entre les deux. Voilà, donc si ça vous intéresse de voir comment ça se passe, une radio associative faite par des jeunes, et certains sont un peu moins jeunes, mais bon, globalement des jeunes, comment ça tourne une asso comme ça, comment c'est à l'intérieur, hein, à quoi ça ressemble un mur de studio avec... jeunes qui parlent dans le micro dedans. Voilà, c'est ouvert aujourd'hui jusqu'à, je crois que c'est jusqu'à 18h. Hein, donc vous pouvez passer toute l'après-midi voir comment ça se passe dans les locaux de Prune. Au sommaire de cette émission, on va parler avec toi Thibaut de Shadow of the Colossus.
C'est ça.
Moi, je parlerai de Chronicles of Mystara, qui est récemment ressorti. Et toi, François, justement, tu nous as préparé un jeu un petit peu Saint-Valentin, non ?
Oui, 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 un jeu qui s'appelle Catherine.
Un jeu de lover ?
Presque.
Ouf, pas sûr.
Un jeu romantique ?
Moyennement.
Bon, eh ben, écoute, tu nous as préparé de la musique, là. Qu'est-ce que tu me conseillerais de mettre en premier ?
Histoire de commencer dans un esprit de Saint-Valentin, on pourrait mettre un petit Ozzy Osbourne.
Alors, un petit Ozzy Osbourne. Mr. Crowley, et, alors, qui était sur l'album, je ne sais plus lequel, je crois que c'est sur, Blizzard of Oz.
Oui,
ouais.
C'est ça. Oui.
Et ça sort d'un jeu, ça ?
Ah oui, ça sort du jeu de Tim Schafer en hommage au métal, Brutal Legend.
Eh bien, on va s'écouter ça tout de suite.
Yeah, you're waiting on Satan's door, Mr.
les Meuporg étant le nom barbare qui désigne les jeux de rôle en ligne auxquels on prend part avec d'autres compagnons virtuels.
Maintenant.
Ça s'appelle comme ça, je suis désolé.
Mais ça s'écrit comment ?
Ça s'écrit MMMPORPG.
De l'info de qualité, c'est l'heure des news.
C'est l'heure des news, je te laisse commencer François.
Oui, oui, oui. Alors je vais faire un petit rappel pour commencer. Alors sur ce dont j'avais parlé le mois dernier, l'Awesome Games Done Quick. Donc cette semaine de speedrun caritatif dédié à la lutte contre le cancer. Et on a eu les résultats des dons obtenus et ils ont récolté 1 575 000 $. Et ce qui constitue un nouveau record pour eux puisque le précédent record était à 1 100 000 $. Donc une très belle chose pour aussi de très beaux speedruns. Hein. On pense au speedrun de Ocarina of Time avec tous les donjons de Zelda, des donjons de Link enfant fait les yeux bandés. C'était assez beau. Et puis autrement, bah, je vais vous parler reboot aujourd'hui. Alors, en ce moment, c'est à la mode. Hein, on voit fleurir toutes sortes de reboots. Hein, au cinéma, on a eu le reboot de Robocop, le reboot des Tortues Ninja. Enfin, des reboots globalement pas terribles.
Oh, c'est bien. Moi, j'ai bien aimé les Tortues Ninja.
Comme
la nostalgie.
Un petit peu.
Les Tortues Ninja par Michael Bay. Alors, bon, pour les jeux vidéo, alors parfois ça donne de bons résultats. On a eu le reboot de Tomb Raider.
Il y avait des pizzas. Et...
Oui, mais bon.
Et des tortues aussi.
Et c'est ça. Et des ninjas.
Oui.
Bon, excuse-moi, mais
c'est pas grave. Et donc, en jeu vidéo, on a eu le reboot de Tomb Raider il n'y a pas très longtemps, alors, qui était plutôt pas mal, hein, malgré un aspect survie qui était totalement inexistant, et ce qui était vraiment dommage. Là, on a eu le reboot d'Elite avec Elite Dangerous, qui a l'air plutôt pas mal aussi. Le dernier Wolfenstein, qui est plutôt sympathique. Et puis, on a les autres reboots, alors généralement issus de licences qui sont complètement mortes et dont on aurait préféré garder que des souvenirs très lointains. Alors on peut penser à Dungeon Keeper, l'extraordinaire série de bah, Peter Molyneux.
Pourquoi tu voudrais garder un souvenir très lointain de Dungeon Keeper?
Ah bah parce qu'il y a une version smartphone entre deux.
Ah oui, tu veux dire, voilà. Pas une nouvelle... Voilà.
Voilà. Ouais.
Oui, mais il faudrait... Oui, oui, oui. Oui, je comprends ta phrase, oui. Non, mais j'avais compris, je crois comprendre que tu voulais oublier...
Ah non. Keeper, on n'oublie jamais bizarre. Dungeon Keeper. Et dans laquelle on incarne donc le seigneur du mal qui crée des pièges pour tous les aventuriers qui veulent venir le tuer et récupérer son trésor. Et alors ça a été complètement massacré avec une version smartphone en free-to-play où les micro-paiements étaient permanents. On pouvait rien faire sans devoir passer à la caisse.
Free-to-play mais micro-paiements.
Voilà, c'est ça, toujours. Ou encore, on peut penser aussi à Sega qui massacre ses licences avec une régularité peu commune. Donc ils ont massacré comme ça Altered Beast ou Golden Axe, donc des classiques de la Mega Drive. Oui, Sonic aussi, évidemment. Hein, mais
ça me brise le cœur de le dire, mais j'ai un peu l'impression
qu'ils
ont
Boom
massacré
était,
Sonic.
Sonic Boom était une catastrophe. D'ailleurs, il s'est très très mal vendu. Hein, moins de 500 000 exemplaires, ça fait quand même assez mal.
Il n'a pas fait un boom.
Ah bah ou une mauvaise explosion.
Pardon.
Et en ce moment, alors c'est Atari qui s'y colle. Donc Atari, alors pas l'Atari des origines, hein, ce qui était anciennement Infogrames.
Atari, cette petite boîte lyonnaise.
Voilà, c'est ça.
Fondée par Bruno Bonnel.
Bruno Bonnel présente hein, toujours.
Non mais ceci dit, c'est un coup. Je trouve que c'est un coup de génie d'Infogrames d'avoir réussi à récupérer la licence Atari.
Complètement.
C'est génial.
Et donc en ce moment, il s'occupe à massacrer l'histoire du jeu vidéo hein, avec une série de reboots moins prometteurs les uns que les autres. Alors on a Alone in the Dark.
Hein, Alone in the Dark qui est par contre à l'origine une production Infogrames. Ah oui, donc là, ils se massacrent. C'est même pas qu'ils massacrent les trucs des autres qu'ils ont rachetés, ils se massacrent eux-mêmes. Là.
Ah oui, mais c'est l'histoire du jeu vidéo en général. Hein,
il a déjà été rebooté plusieurs fois, Alone in the Dark.
Ah, il avait été rebooté.
Oui. Sur Wii, il me semble.
Sur 360 et PS3.
D'accord.
Et c'était une catastrophe. Et là, ils ont décidé de le rebooter à nouveau avec Alone in the Dark Illumination. Alors, on passe d'un jeu de survival horror comme l'étaient les premiers Resident Evil à un FPS coopératif un peu à la Left 4 Dead avec des flingues et de la magie, alors, développé par la société Pure FPS dont c'est le premier jeu. Et les premières previews montrent que le résultat fait peur à voir, hein, contrairement au jeu qui a l'air très drôle. Alors, ils ont également lancé un reboot de la série Haunted House, alors qui était un jeu sorti sur Atari 2600. Alors, le nouvel épisode va s'appeler Cryptic Graves. Et est sorti en Early Access sur Steam à la fin de l'année dernière. Donc l'Early Access, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le principe de payer pour jouer à une version alpha ou bêta d'un jeu. Alors, pour donner un aperçu de la catastrophe, il suffit juste de citer quelques rares critiques du jeu. Alors, pour Game Watcher, Haunted House Cryptic Graves est une atrocité. Pour Hooked Gamers, c'est faites-vous une faveur, évitez ce jeu à tout prix. Donc on arrive à quelque chose d'assez sympathique. Et le meilleur est à venir, et aussi le plus absurde, hein, comme le film Tetris par les producteurs des films Mortal Kombat.
Le film Tetris ?
Oui, il y a un film Tetris en préparation, et par les mecs qui ont fait Mortal Kombat 1 et 2.
Putain, j'aime ces gens.
Oui,
je veux voir ces
des génies absolus. J'espère que Christophe Lambert jouera le rôle d'un Tetris.
Ça sera peut-être au même niveau que l'adaptation de Mario au cinéma ?
Sans doute même pire.
Non, mais attends, il y a une forme abstraite. Je veux dire, dans Tetris, ils vont en faire un film d'auteur, quoi. Un truc purement art et essai. Enfin, vu qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de personnage.
C'est un labyrinthe, ils sont bloqués dans
génial,
un labyrinthe.
Ouais, ou alors ils confient ça à Michael Bay, ils mettent des explosions partout.
Oui, comme il avait fait pour Battleship, où il avait fait un jeu donc, qui n'avait plus rien à voir avec le. Enfin, un film qui n'avait plus aucun rapport avec le jeu, à part qu'il y avait des bateaux.
Et il y avait Rihanna quand même aussi.
Il y a Rihanna dans le jeu de la bataille navale à la base ?
Non, dans le film.
Oui, c'est oui, pour non, ça.
C'est donne ça, dit, ça n'a rien à voir.
Mais ça me donne peut-être l'intérêt au film, je ne sais pas. Je me pose des questions.
Oui, elle est amusante.
Et alors, donc, dans le même genre, on va avoir droit au remake du classique de l'arcade, Asteroids. Alors, pour rappeler vite fait ce qu'est Asteroids, alors, c'est un des premiers shoot'em up dans lequel on contrôlait un vaisseau qui doit détruire des astéroïdes, le tout avec des graphismes vectoriels, donc uniquement composés de lignes. C'est ce qui servait à faire des graphismes en pseudo 3D dans les années 80, donc avec des jeux comme le premier Elite d'ailleurs.
C'était très joli d'ailleurs.
Oui, c'était assez classe.
Hein. Dans le genre très simple.
Et donc c'est un jeu de 1979, hein, tout ce qui est plus minimaliste. Alors comment on fait un retour pour ce genre de jeu ? Alors, est-ce qu'on fait un shoot'em up dans le genre Geometry Evolved qui lui aussi utilise des graphismes un peu vectoriels ? Eh ben non, on appelle ça Asteroids Outpost. Et on y jouera un mineur qui doit collecter des ressources pour construire une forteresse et des équipements, le tout en multijoueur avec un système de crafting. Donc un jeu totalement générique qui ressemble à tous les jeux actuels du genre DayZ et tout ça. Sauf que d'habitude, ces jeux-là mettent en scène des zombies. Donc là, on part déjà avec un point assez négatif. Et alors le seul lien avec la licence, finalement, c'est qu'il y aura juste des pluies d'astéroïdes qui vont s'abattre de temps en temps sur la planète. C'est à se demander ce qu'ils vont faire avec l'histoire du jeu vidéo prochainement. Oui.
Ben, Pong, je pense, c'est vrai. Pong RPG, moi, je serais
preneur. Je sais plus quelle société avait fait aussi un reboot. C'était Atari, je crois, aussi, qui avait fait un reboot de Bomberman où ils avaient transformé ça en jeu cyberpunk. C'était assez étonnant aussi. Et c'était très mauvais.
Ah ouais,
ouais.
Et quand est-ce qu'ils font des reboots de Tintin au Tibet, de Spirou, enfin tous les grands classiques, Astérix.
Je sais pas s'il faut vraiment faire ça.
Moi j'aimais beaucoup Tintin au Tibet, je vous interdirais de le troller
les
en
jeux. Alors les jeux Infogrames étaient techniquement très très beaux quand même.
Ils étaient magnifiques. Le gameplay était plus
problématique. Un peu dur, un peu difficile des fois, voire un peu absurde quand... il fallait éviter des, je sais pas, il faut éviter quoi dans la gare dans Tintin au Tibet, des valises,
non,
des roulettes,
oui, les,
des gens,
les serveurs aussi qui te foncent dessus à l'hôtel.
Ouais, voilà, mais ouais. C'est seulement le plateau du serveur qui est dangereux.
Et le chien aussi, le petit chien, il est très dangereux. Les poules aussi quand t'es au Pérou.
Oui. Des ennemis hyper terrifiants.
Et oui, je l'ai dans mes toilettes, j'y joue sur Game Boy, bon, je m'amuse bien.
Bon. C'est bon pour toutes ces annonces.
Ah oui,
il y a peut-être
peur,
le nouveau Zelda aussi qui est sorti aujourd'hui, non ?
Il est sorti hier, oui. Alors c'est un remake, par contre. Là, c'est le remake de Majora's Mask qui était sorti sur N64 à l'époque. Et alors j'y ai joué un petit peu et le travail accompli est vraiment énorme. Hein. Les graphismes ont entièrement été refaits, certains principes de jeu ont été un peu assouplis, les boss ont été rendus un peu plus durs. Enfin, le jeu devient vraiment plus agréable. Bon, je pourrais en reparler peut-être une prochaine fois.
Et un autre reboot aussi qui était pas mal, c'était les premiers Resident Evil qui ont été faits sur c'était sur Dreamcast ou GameCube qui ont été faits.
C'était sur GameCube et là ils viennent de ressortir sur toutes les consoles.
Et c'était pas mal, moi j'avais bien aimé.
Le remake du premier était vraiment excellent.
Et après il y avait un sur DS qui était un peu moins bon. Avec des phases avec des couteaux sur l'écran tactile qui ne rimaient à rien.
Ah oui, ben ça.
Mais
c'est les jeux sur DS.
C'est ça.
Ouais, je passe à ma news à moi.
Oui.
Alors, il y a 10 jours, c'était le DICE Summit à Las Vegas. Alors, DICE Summit, DICE, ça veut dire c'est le sommet sur le design, l'innovation, la communication et le divertissement. Hein. C'est Design, Innovate, Communicate, Entertain. Donc c'est un congrès qui existe depuis 2002, je crois, hein, qui est contrairement aux gros barouf publicitaires du genre E3, qui sont très centrés sur des nouveautés qui vont vous en mettre plein la gueule. C'est un événement qui est plus corporate, qui s'adresse plus aux pros qu'au grand public, avec un contenu qui est plus orienté sur la production, sur la création, voire même sur l'économie, que sur les pattes technologiques que, enfin, même si moi j'aime bien aussi les pattes technologiques, hein, c'est cool, hein, c'est bien d'en prendre plein la gueule et tout. Mais voilà, là c'est l'occasion de voir quand même parler des jeux vidéo par les gens de la production de jeux vidéo de manière un petit peu différente. Hein. Pour ceux que ça intéresse, donc on trouve sur le site web du DICE Summit des vidéos de leurs conférences depuis 2010. Alors celles de l'édition 2015, elles y sont pas encore, mais on peut les trouver sur la chaîne YouTube du magazine Variety. Donc Variety qui est un magazine pour les pros de l'industrie hollywoodienne. Ce qui est intéressant d'ailleurs de voir que c'est eux qui s'intéressent aux jeux vidéo aussi hein, maintenant. Je sais pas. Ce qu'on voit dans ces vidéos, hein, ça va de questions semi-philosophiques telles que comment construire un open world attrayant, à des trucs un peu plus promo, comme une présentation de Disney Infinity 2.0, hein, où le mec insiste bien sur le concept que tu peux jouer Spider-Man et Jack Sparrow dans le même jeu, et donc c'est cool.
On a plein de nouvelles figurines.
C'est cool. Mais non, mais en même temps, bah, j'aime bien, c'est cool. Quoi. Tu peux jouer Jack Sparrow et Spider-Man en même temps.
Génial.
T'as pas d'imagination.
Non, mais oui, excusez-moi.
Donc, parmi les pièces de choix de cette session 2015, hein, on trouve un dialogue entre Alexei Pajitnov, donc le co-créateur de Tetris, enfin, créateur principal de Tetris, on va dire. Hank Rogers, donc, qui est le directeur de la Tetris Company. Hank Rogers, c'était lui qui s'était chargé à l'époque de négocier les droits de Tetris pour le compte de Nintendo. Et donc, bah, c'est cette histoire-là qu'il raconte dans cette petite conférence. Hein. Because le système communiste, les droits n'appartenaient pas à Pajitnov, mais à l'Académie des sciences du RSS. Et donc, bah, les tractations de Rogers avec l'administration soviétique, visiblement, ça nécessitait pas mal de bluffs. Enfin, voilà, c'est assez rigolo à entendre. Puis bon, il parle aussi un petit peu du succès international de Tetris. Hein. Rogers a une thèse dessus. Il explique que, comme c'est un jeu abstrait, il n'y a pas de personnage, donc il n'y a pas de barrière culturelle. Hein. Et voilà, c'est une idée que je trouve pas inintéressante. Et il conclut leur conférence en passant la vidéo de Awesome Games Done Quick dont tu nous parlais le mois dernier. Et c'est vraiment effectivement très impressionnant à voir. Et ça a l'air de beaucoup les amuser. En plus, le mec à la fin qui joue avec des Tetris transparents, invisibles.
C'est exceptionnel comme performance.
Non, mais ce que je trouve marrant, c'est de voir que Pajitnov, ça le fait encore marrer 30 ans après. Je trouvais ça plutôt sympathique. Voilà. Et par ailleurs, le DICE Summit, c'est aussi donc l'occasion des DICE Awards. Et cette année, le prix du jeu de l'année a été attribué à Dragon Age Inquisition. Puis sinon, il y a eu pas mal d'autres prix, et c'est Shadow of Mordor qui a raflé à peu près tout le reste.
Voilà. Ceci dit, Dragon Age Inquisition, bah, je suis en train de le faire en ce moment, et il le mérite totalement. Il est vraiment exceptionnel. Un jeu vraiment, vraiment très dense, où on s'ennuie jamais et on a toujours quelque chose à faire. C'est, pour un RPG en ce moment, c'est assez rare finalement, de trouver un jeu de cette qualité-là en tout cas.
Oui, mais après The Witcher, il n'y aura plus aucun RPG.
Ah, mais il n'est pas encore sorti.
On fait une petite pause musicale avec un morceau de Barry Adamson qui s'appelle The Bitter Side of Town. Et tu m'avais dit, François, que c'était sur la BO de Alan Wake.
C'est ça.
Alors, j'ai pas dit de bêtises.
Now. Was a ten bomb fire. Satan and the pilgrims set alight the scene, and I became their twisted gun for hire. Don't let them get you, boy. Now use your head. The lights there are coming round again. So now I'm trying to get out of the city. You know where I can be found. The beaten side of town won't ever let you down. I woke up this morning from a crazy dream. The earth was a burning bonfire. I crawled right inside the spaces in between. A mirror.
you're living in. So now I'm trying to get out of the city. You know where I can be found. The beaten side of town. Don't ever let me down.
I woke up this morning from a crazy dream. The earth was a churning ball of fire. The truck and us were sniping as I swam upstream. And then I saw a temple with a spire. There was a sign saying, welcome all you deist agnostics and Buddhists and Muslims and Christians, Caucasians, junkies and lookaheads, lowlifes and deadbeats, homos and headphones and negroes and downloads, beat freaks and squeakers, pets without sneakers, the Hindi, the Jew and the atheist, the ruler, the people from countries and faraway places, stupid ideas that the public embraces. We all provided with morphic resonation, but that was only a dream. The
comes a new challenger.
Nouveautés et jeux rétro, grands classiques et perles occultes, tous les jeux vidéo sont N'en touche pas à ma console.
Et oui, c'est l'heure des chroniques. Et bien moi j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de Chronicles of Mystara. Alors, qu'est-ce que c'est Chronicles of Mystara? En fait, donc c'est dans la longue liste des adaptations de Donjons et Dragons en jeux vidéo. Il y a eu deux jeux qui sont sortis sur arcade respectivement en 93 et 96, qui s'appelaient Tower of Doom et Shadow over Mystara. C'était des productions Capcom. Et c'était ressorti sous le titre Dungeons and Dragons Collection sur Saturn, mais je crois uniquement au Japon. Et donc réédité depuis un an ou deux en version dématérialisée pour console et PC sous le titre Chronicles of Mystara, ce qui est donc à peu près sous nos latitudes, la première occasion d'y jouer depuis l'arcade, la première sur support domestique en tout cas. Contrairement donc à la majorité des adaptations de Donjons, qui sont très logiquement des RPG, hein, je pense à Baldur's Gate, Eye of the Beholder, tout ça, Pool of Radiance.
Ou même cet horrible Donjons et Dragons qui était sorti sur Mega Drive au début des années 90.
Ça me dit quelque chose, mais j'ai plus le titre.
Complètement injouable. Moi non plus, mais je l'avais étant petit et c'était une horreur. Mais une horreur.
Il y en avait eu sur NES aussi. Enfin, il y en a eu un peu. On imagine peut-être mal aujourd'hui ce qui a pu être l'explosion Donjons et Dragons dans les années 80. Beaucoup de jeux édités chez SSI notamment. Contrairement à tous ces jeux-là hein, qui sont des RPG, Tower of Doom et Shadow of Mystara, c'est des jeux de baston à scrolling horizontal, du pur Capcom, quoi, des beat'em up dans la lignée de Golden Axe. L'intérêt de ces jeux, c'est de voir, par rapport aux autres jeux de baston du même genre qui étaient assez straightforward, comme on dirait comment dire, assez linéaire, hein, pour dire les choses franchement, de voir comment les développeurs ont pu intégrer à ces jeux d'action des éléments issus du RPG, puisqu'a priori, quand même, le RPG, le principe, c'est le choix totalement libre et tout, donc c'était bizarrement compatible avec un jeu de baston avec un scrolling fixe. Voilà, donc voir comment ils ont fait pour que la mention Dungeons & Dragons sur l'écran titre, ça soit justifié par un peu plus que l'achat d'une licence. Et je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien. Donc il y a l'univers, hein, d'abord, évidemment. Donc le jeu se passe à Mystara. Alors Mystara, c'était le premier univers qui avait été créé pour Dungeons & Dragons. Hein, pour les puristes, c'est le premier. C'était avant Greyhawk, avant celui qui est le plus connu aujourd'hui, qui est Forgotten Realms, hein, qui a un peu tout écrasé dans les années 80-90. Et c'est même, en fait, ces jeux, c'était une des dernières occasions de parcourir cet univers, hein, puisque la gamme Mystara avait été abandonnée par TSR, l'éditeur historique du jeu de rôle papier, en 96. Donc on retrouve le bestiaire typique de Donj, hein, avec la possibilité d'affronter des gnolls, des elfes noirs, des tyranneuils ou des tyrannieux, je ne sais jamais comment on dit, des beholders, quoi. Et tout ça, bah, évidemment, revisité avec le graphisme un peu japonais quand même de Capcom, hein, tout à fait dans l'esprit de Street Fighter, Street of Rage et tout ça.
Bah, Final Fight,
oui, voilà.
Ouais, ou des jeux aussi, comme ils en avaient sorti sur les légendes arthuriennes, comme Knight of the Round. Ils avaient oublié la table entre deux, mais où on pouvait jouer...
Chevalier du Rond.
Oui, et où on pouvait jouer Arthur, Perceval et tout ça. Enfin, c'est, qui est vraiment dans le même genre, pour le coup, que Chronicles of Mystara.
Parmi tous ces ennemis, il y a même le fameux dragon rouge du logo TSR qu'on peut affronter, qui est totalement gros bill. Comme dans la version papier, on peut choisir son personnage, hein, parmi plusieurs classes. Donc il y a le nain, qui est bourrin mais un peu lourd. Il y a l'elfe qui peut lancer des sorts d'attaque, le clerc qui sort plutôt des sorts de défense ou de soins, et le guerrier qui est le personnage polyvalent, comme toujours. Et à la fin de chaque niveau, on peut se rendre dans des boutiques pour acheter des armes de tir ou des potions de vie. Et tout au long du jeu, on peut ramasser de l'or, des armes, des objets spéciaux, des anneaux de sort, tout ça. Ça. Donc on a quand même cet esprit, on tue les monstres et puis on ramasse du loot, qui est très quand même vraiment, vraiment issu de Donjons et Dragons. Et à mon avis, l'apport le plus sympa de la touche RPG, hein, dans le jeu, c'est la possibilité de choisir son chemin, puisqu'on nous propose régulièrement, en fin de niveau, de continuer sa route en choisissant parmi deux ou trois niveaux différents. Donc un peu à la manière d'un livre dont vous êtes le héros. Alors non seulement ça augmente la rejouabilité, hein, puisque quand on recommence la partie, on peut choisir un chemin complètement différent. Et puis ça ajoute, je dirais, une sorte de facteur hasard ou de facteur stratégique au jeu, hein, puisque les niveaux à choisir ne sont pas forcément tous de difficulté égale. Par exemple, on peut avoir un niveau qui est long mais avec des monstres pas très forts, à la place pendant un niveau où il n'y a presque pas de monstres mais qui sont très balèzes, genre le dragon rouge, quoi. Donc ça, c'est pour Tower of Doom. Shadow of Mystara, ça reprend le principe quasiment à l'identique, mais avec l'ajout de deux classes, hein, le magicien et la voleuse. Le fait que cette fois, chaque personnage a deux skins différents. Les graphismes, globalement, sont plus fins, les décors plus riches. Il y a plus de coups avec des possibilités de faire des trucs. Alors, c'est pas du Street Fighter non plus, mais des trucs qui ressemblent un petit peu à des coups spéciaux avec des glissades, des machins comme ça. Et puis, bon, globalement, il y a une maniabilité qui est beaucoup plus agréable, beaucoup plus dynamique, ça va plus vite. Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant, parce que c'est ça le plus important, finalement, de ce nouveau port du jeu. Alors, je préviens, hein, j'avais une attente qui était très, très grande, parce que j'ai ruiné beaucoup d'argent de poche dans la bande de Tower of Doom il y a de ça très longtemps, 15 ans, 20 ans presque. Alors, le transfert HD, c'est pas totalement convaincant, avec des choix de filtres. Soit c'est du HD qui est tellement lissé que ça en devient baveux, soit c'est un faux affichage télé qui essaye de restituer les lignes à l'ancienne de la télé. C'est un petit peu moche.
Oui, ils font ça pour tous leurs portages chez Capcom. Ils avaient fait la même chose pour Final Fight. Ils proposaient aussi, alors je sais pas s'ils le font pour Chronicles of Mystara, mais un affichage façon borne d'arcade avec les coins qui sont un peu bombés.
Pour simuler l'inclinaison. Une traduction qui est particulièrement comique, hein, qui rappelle un peu la grande époque des localisations de jeux sur NES, genre Chevalier du Zodiac et tout ça. C'est-à-dire avec des syntaxes qui ressemblent à du français, mais sans en être tout à fait vraiment. Des passages en anglais qui arrivent en plein milieu d'une phrase. Par exemple, je sais pas, on a on a trouvé une key ou des trucs comme ça, tu vois. Puis bon, voilà, il y a le jeu. Moi, j'y joue sur PC, donc avec une manette d'Xbox, hein, que je trouve que c'est une super manette, il n'y a pas de problème, mais le stick arcade, c'est autre chose. C'est pas mieux ou moins bien, c'est autre chose. C'est pas la même sensation, c'est pas la... Bon. Donc, retrouver vraiment le feeling arcade, moi, le jeu m'a semblé un petit peu plus lourd que ce que j'en avais dans mes souvenirs, qui sont évidemment datés et puis compensés par toute l'évolution technologique qu'il y a eu depuis, hein, donc ce qui était peut-être ultra rapide à l'époque me semble un petit peu lourd aujourd'hui. Bon, tout ça, c'est pas bien grave quand même. Moi, je trouve le point le plus intéressant dans le port, c'est la question des crédits. Alors, parce qu'au début, on se dit voilà, chouette, je vais enfin pouvoir finir le jeu sans me ruiner à rajouter des pièces chaque fois que je meurs. Hein, moi, ça me semblait a priori un peu le premier intérêt de porter un jeu d'arcade sur support salon. Surtout que le jeu est en téléchargement pas trop cher. Alors, en fait, c'est à double tranchant, parce que cette peur de trop dépenser, c'était aussi le moteur principal du suspense dans les jeux d'arcade, et c'était ce qui mettait un peu les joueurs en condition. Donc là, comme on peut se permettre de faire des continues sans limite, on peut aussi se permettre de jouer un petit peu par-dessus la jambe, sans implication réelle, et du coup, bah, le jeu est moins stressant que sa version d'origine, et donc et bah, un peu plus facilement lassant, finalement. Donc, évidemment, rien n'empêche aux joueurs de se fixer ses propres défis pour se forcer à finir le jeu avec à chaque fois moins de crédit. Hein. Mais voilà, ce petit stress de la borne d'arcade où tu as 10 secondes pour remettre ta pièce si tu veux faire ton continu, et tout ça m'a manqué un petit peu dans ce port. Voilà, okay. À part ça, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir quand même à retrouver ces jeux qui sont vraiment peut-être pas des jeux exemplaires, parce que finalement des jeux d'arcade comme ça, des jeux de baston dans le genre de Final Fight, Golden Axe et compagnie, il y en a eu quand même un sacré paquet qui sortait à l'époque, et il faut bien avouer que niveau gameplay ils se ressemblent tous un petit peu. Mais voilà, celui-là a la particularité de se dérouler dans l'univers de Donjons et Dragons et d'avoir ces petits ajouts, cette petite touche vaguement RPG qui en fait une variation que je trouve tout à fait sympathique. Non, je sais pas.
Ah oui. Mais je l'avais essayé vite fait, mais c'est vrai qu'il me faisait beaucoup penser à Knight of the Round ou Magic Sword qui était sorti aussi chez Capcom. Un Magic Sword qui est quand même vachement moins connu, mais qui était sorti, et il est ressorti avec Final Fight sur console et PC aussi, dans une version proche de Chronicles of Mystara.
Je n'ai connu aucun de ces jeux. Ah. Je suis dans...
Tu connais pas Golden Axe ?
Non, excusez-moi.
C'est dommage.
Je révise mes classiques.
On va se faire une petite pause musicale avec le thème de... Arkham City. Allez, lance-toi, Thème.
Il n'a pas envie ?
Si, alors attends. Ah, voilà.
Il prend son temps.
Happy Encore Une Chronique.
Et cette fois, c'est Thibaut qui va prendre la parole pour cette chronique pour nous parler de Shadow of the Colossus.
C'est ça. Donc aujourd'hui, jour de la Saint-Valentin, j'ai décidé de vous parler d'un jeu où l'amour est un des sujets principaux. J'ai nommé, comme tu l'as dit Yann, Shadow of the Colossus, le monument de la PS2. Alors pourquoi avoir choisi ce titre ? Tout simplement parce que la femme que doit sauver le héros est morte et que c'est toujours plus agréable de ne pas avoir un énième boulet à se trimballer tout au long de l'aventure comme une Ashley dans Resident Evil 4. Car il faut bien le dire que...
Cette chronique commence de manière totalement...
J'attaque. Parce qu'il faut bien dire que la plupart du temps quand même... Faut se le dire, la gente féminine dans le jeu vidéo, c'est synonyme de relou.
Oui, c'est vrai qu'ils ne sont pas très bien gâtés.
Sauf Elisabeth dans Bioshock Infinite, qui est vraiment utile pour le coup.
Oui, Ellie aussi dans The Last of Us, mais ça reste récent.
On va dire que ça s'améliore. Ouais.
La plupart du temps, pour être vulgaire, c'est une connasse qu'il fallait sauver et qui s'est encore fait avoir comme une idiote.
Ah bah bravo.
Excusez-moi.
Non mais c'est malheureusement...
Je vois les nids putes ni soumises qui arrivent dans les studios.
J'espère qu'ils vont te mettre une baffe. Tiens.
Alors plus
sérieusement... Franchement. Mais non mais c'est vrai. Ceci dit c'est vrai.
Je pourrais faire une petite chronique prochainement à la femme dans les jeux vidéo si tu veux.
Ça risque d'être un peu sale.
Oui.
Malheureusement.
On parlera pas des seins en pyramide de Tomb Raider. Plus sérieusement, le jeu est développé par SCE Japan Studio. SCE.
C'est parce que je pensais au jeu de David Cage où il faut faire une action pour enlever sa culotte.
Ah oui, d'accord.
Heavy Rain. Ah oui, ce jeu.
Non. Donc je reviens à Shadow.
Ça dérape totalement.
Je reviens à Shadow of the Colossus, développé par SCE Japan Studio. Je le dis à la version française, excusez-moi. Et édité par Sony. On peut dire vulgairement que c'est de l'action-aventure. C'est sorti le 17 février 2005 sur PS2 en France, soit bientôt 10 ans, 10 ans au Japon. Ça fait bizarre quand même. Et réédité avec ICO le 28 septembre 2011 sur PlayStation 3. Alors je vais essayer de vous donner un aperçu à peu près de ce jeu, mais il sera malheureusement pas exhaustif, tout simplement parce qu'il faudrait prendre beaucoup plus de temps. On retrouve à l'origine de ce jeu le génial Fumito Ueda, qui était déjà derrière l'excellent ICO, donc sorti en 2001 lui sur PS2. Ça nous rajeunit pas. On incarne un jeune héros chétif, Vander, venu braver des terres sacrées, accompagné de son aube destrier Agoro, dans le but de redonner la vie à une jeune fille dont on ne sait pas grand-chose, mais on peut supposer qu'elle soit sa bien-aimée. Mais c'est jamais dit clairement dans le jeu. On comprend, mais c'est jamais dit clairement. Je sais pas...
Non, c'est vrai que c'est un jeu qui parle, enfin qui exprime assez peu son histoire ou les liens entre les personnages. Et c'est ce qui fait que c'est très beau en même temps.
C'est ça, la libre interprétation. Donc après une cinématique d'intro fabuleuse, on apprend que notre avatar a profané ces lieux dans le but de rencontrer Dormin, un esprit mystérieux qui réside dans le grand temple du milieu des terres interdites, possédant aussi le pouvoir de redonner la vie aux morts. Donc ce dernier accepte de ressusciter Mono, la jeune défunte, à condition que Vander, armé de son épée antique, on sait pas trop comment il l'a eu, mais il l'a, parvient à venir à bout des 16 colosses qui peuplent la région. Désormais, c'est à nous joueurs de prendre les choses en main, de parcourir la map de Shadow of the Colossus, de trouver et tuer les seuls habitants de ce vaste monde, à l'exception de quelques aigles lézards qui ne savent pas grand-chose. L'ambiance est tout bonnement époustouflante, agrémentée par une splendide réalisation. On évolue dans un univers à la croisée d'un conte japonais, d'une tragédie grecque, où l'on doit affronter sa destinée, quel qu'en soit le prix à payer. Il y a aussi un petit côté irlandais, j'ai trouvé, je sais pas, avec les falaises, tu vois, un peu hautes sur les plages.
C'est vrai, il y a un petit côté comme ça. Oui.
On est donc écrasé par la grandeur de ces paysages. Des colosses comparés à nous, intrus dans ce monde perdu. La direction artistique n'a pas pris une ride. Les décors sont beaux, variés et nombreux. Je tiens à le préciser que moi j'ai fait la version HD sur PS3. Vraiment, très très bonne version HD. C'est assez rare de la trouver, mais vous la trouvez à 40€. J'ai pas fait la version PS2, mais apparemment elle était vraiment buggée.
Alors, la version PS2, parce que moi j'y avais joué à l'époque, c'est vrai qu'elle était. Alors, elle était pas extrêmement buggée, parce que c'est plus ou moins la version HD est plus ou moins la même, ils ont pas corrigé les bugs. Par contre, elle avait énormément de ralentissement parce que le jeu nécessitait trop de puissance pour la PlayStation 2.
Même sur PS3, c'est impressionnant.
Qui était en fin de vie à l'époque.
La map est vraiment immense. On est à la recherche de nos cibles, les colosses, dans de longues chevauchées marquées par l'absence totale de musique qui renforce vraiment une impression de solitude. Une fois notre adversaire en visu, on l'analyse, on trouve son point faible et on le tue. Chaque ennemi possède leurs propres défauts, leurs propres failles, leur propre environnement et leur propre design. C'est vraiment une variété qui fait vraiment de chaque combat un combat unique et épique à la fois. C'est vraiment, on se rappelle de chaque colosse, et à chaque colosse, on va se dire, est-ce qu'ils vont faire mieux? Et oui, ils font mieux. Après, on a tous nos petites préférences. Et au fur et à mesure que nos péripéties avancent, je sais pas si t'as eu la même sensation, François, je ne sais pas si toi aussi, Yann, tu l'as fait, mais on commence à se poser des questions un peu sur notre quête. Est-ce qu'on se demande est-ce qu'elle est juste? Doit-on aller jusqu'au bout? On est en fait, moi, c'est le sentiment que j'ai eu, on est tiré entre les remords de nos actes et la détermination, en fait, d'aller au bout de notre objectif.
Bah, moi, je trouve qu'il y a vraiment ce que tu dis, oui, parce que à chaque fois, en fait, quand on arrive vers un colosse, le colosse est toujours endormi. On vient toujours le déranger alors que finalement il nous a rien fait. Il va pas nous attaquer de lui-même. C'est toujours nous qui allons l'attaquer.
Et tu sens la pitié aussi dans son regard des fois.
Et tu sens la pitié. Et surtout, c'est cette séquence à chaque fois que tu tues un colosse ou un espèce d'esprit sombre quitte le colosse et vient t'envahir. Avec une espèce de pourriture qui commence sur le personnage principal.
C'est ça.
Ça me fait penser à Ultima un peu. Du coup, alors, une espèce de gameplay moral. Quoi.
On n'était pas raccord, on ne s'est pas parlé avant, mais justement, je vais venir au gameplay. Merci Yann de me lancer dessus. Donc le gameplay, il est assez simple. Quelques boutons utilisés. On va pas comme dans un Zelda, on va pas débloquer des armes, des armures ou quelque chose comme ça. Il y a aucun point RPG. On part avec un arc, une épée et nos petites mains, un cheval. Pas d'évolution dans le jeu à ce niveau-là. Ça va vraiment être les différents colosses, et on va les aborder différemment. C'est ça qui va varier le gameplay, mais sinon le gameplay, il reste le même. Il n'y a pas de nouvelle arme à débloquer.
Et dans les choses qui changent par rapport à Zelda et toutes ces choses-là, c'est qu'il n'y a pas de château à explorer, de ville.
Pas proprement. Non, c'est vraiment désertique. Comme je te dis, il n'y a que des lézards, des aigles et les 16 colosses. Après, ils ont tous leurs environnements, ils sont vraiment tous variés et nombreux, franchement. Donc, c'est ça aussi qui, tu vois, c'est vraiment un monde antique perdu. C'est ça que tu sens que c'est une terre sacrée qui est dévastée, mais non, tu rencontres personne à qui parler. Donc, si tu es bavard, ne joue pas à ce jeu. Donc, problème de maniabilité, moi, je trouve, dans les phases d'escalade ou les courses à cheval, c'est vrai que c'était assez lourd. Au début, moi, j'avais beaucoup de mal à monter aggro. C'était assez dur.
Ouais, c'est un peu compliqué au début, puis finalement on s'habitue.
On s'y fait, ouais, mais après, tu vois, je me rappelle à la fin du jeu, j'avais toujours un peu de mal sur certaines séquences. Quand t'es sur le dos d'aggro et que tu dois sauter sur un colosse, des fois c'est assez compliqué.
Et en même temps, moi je me souviens qu'à l'époque, fallait mettre les pieds du cheval, il y avait très peu de jeux où il y avait des chevaux finalement, où on contrôlait un cheval. Et c'était un des jeux où c'était le plus réussi, où même l'animation du cheval était une des plus belles qu'on ait vues jusqu'à peut-être Red Dead Redemption.
Et on est très attaché aussi à ce cheval, il y a une relation avec ce cheval qui se crée. À noter aussi par moments quelques problèmes de caméra quand on monte les colosses. Bon, ils sont assez rares, mais là c'est pour chercher la petite bête. Les musiques composées par Ko Otani, donc qui fait notamment City Hunter, il me semble, donc Nicky Larson, pour nous franchouillards, jouent un rôle essentiel dans le jeu. Elles changent en fonction du gameplay. Par exemple, quand on se rapproche du colosse, qu'on le trouve, qu'on le grimpe et qu'on le tue, ça va pas être la même musique. Les musiques vont changer comme ça et ça va te mettre dans une ambiance complètement différente. Donc un peu inquiétante, un peu épique, et à la fin un peu triste quand on tue le colosse. C'est très bien fait. Et ce savant mélange nous donne vraiment la sensation d'être le héros d'un odyssée onirique. C'est vraiment ça. Nous, petits êtres qui défions... ouais, ça se dit, excusez-moi.
Oui.
qui défions des choses surnaturelles. Il n'y a pas vraiment de quête annexe en soi. On peut parcourir le monde à la recherche de fruits pour augmenter notre santé ou de lézards aux queues luisantes pour augmenter notre vigueur. On prend donc un malin plaisir à parcourir cette terre sacrée juste pour découvrir ce monde perdu, oublié, bourré de charme. Les plus courageux essayeront de partir à la recherche du jardin secret. Mais il faut avoir beaucoup, 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 beaucoup de vigueur. Essayer d'attraper un aigle aussi en vol afin de partager un peu de sa route en sa compagnie dans les airs, c'est plutôt pas mal, c'est rigolo. J'ai jamais réussi à le faire, mais j'ai vu des vidéos de gameplay, c'est rigolo. On retrouve la présence d'un monde contre la montre pour prolonger la durée de vie d'à peine 10 heures, mais l'aventure finit de 1, vous aurez vécu une expérience hors du commun, et de 2, vous aurez de suite envie de la recommencer tellement elle est belle et immersive.
C'est beau ce que tu as dit.
C'est beau. Ouais. Ah, c'est à Saint-Valentin, je suis poétique.
Putain, Louis, comment t'as fait commencer?
C'est une intro. Alors, pour finir, le gros point fort de ce jeu est ce qui en fait sa singularité et tout son charme. C'est, à mon sens, vraiment la narration. On est plongé au cœur d'une histoire dont on est le héros. Il y a très peu de dialogue, comme disait François tout à l'heure. On ne sait pas grand-chose, voire quasiment rien des personnages et de l'univers qui les entourent, mais le récit est vraiment raconté à travers l'aventure qu'on joue. On est véritablement les acteurs de ce conte merveilleux. C'est par le gameplay que l'histoire se fait, vraiment.
Eh ben, écoute, c'est... Vous avez... C'est ce qui est... Non, je trouve que c'est un bon objectif de jeu vidéo, ça. Je veux dire, le fait que l'histoire se fasse par le gameplay...
Tu fais pas comme Metal Gear Solid, des cinématiques de fin de 45 minutes. Non, c'est voilà, on présente l'univers un peu. Très, très, très peu de dialogue, comme je le disais. Et c'est, voilà, c'est toi qui interprètes, c'est toi qui vois de toute façon, c'est très, très poétique. En attendant maintenant The Last Guardian, on ne sait pas trop où l'on est. Apparemment, ils ne l'ont pas abandonné. On parle peut-être qu'il va être développé, donc sortir sur PS4.
Oui, mais par contre, Fumito Ueda, donc, qui est à l'origine de Ico et de Shadow of the Colossus, ne travaille plus sur le projet.
Je savais pas.
Il n'est plus que consultant.
Ah, mauvaise nouvelle. Oui, ça fait peur.
Here comes a new challenger!
Nouveautés et jeux rétro, grands classiques et perles occultes, tous les jeux vidéo sont N'en touche pas à ma console.
Et donc maintenant, c'est François qui va nous parler d'un jeu qui s'appelle Catherine.
C'est ça, oui. Alors toujours dans un
esprit titre assez mystérieux.
C'est toujours dans un esprit de Saint-Valentin, hein, parce que c'est un jeu centré sur une histoire de couple, une histoire d'amour, enfin presque une histoire d'amour.
Oui. Alors je sens que ça va mal finir cette histoire.
Oui, peut-être.
Ça va faire un peu l'émission quand même de gros macho, hein.
Non.
Ça me rappelle un peu le joueur du grenier. Une fois, ils ont fait une émission Saint-Valentin et vous avez présenté que des jeux porno. Voilà, j'espère qu'on ne va pas tomber aussi bas quand même, messieurs.
Ça va pas jusque là. Alors c'est un jeu qui est sorti. Catherine, c'est un jeu qui est sorti il y a 3 ans sur PS3, Xbox 360. Alors c'est édité par Atlus, une société qui est connue des amateurs de JRPG pour la série des Shin Megami Tensei et la série spin-off des Persona, dont le 5 vient tout juste d'être annoncé sur PlayStation 3 et PlayStation 4. Alors, le jeu nous parle de l'histoire de Vincent Brooks, un jeune trentenaire qui est complètement à côté de ses pompes, qui passe son temps au bar avec ses potes et qui sort avec Catherine, avec un K. Et ça a son importance, parce qu'il finit par la tromper avec Catherine, mais avec un C, évidemment. Oui.
D'accord.
Toute cette histoire commence déjà assez mal. Donc, c'est une jeune femme qui est assez improbable et mystérieuse. Alors, c'est une situation qui se complique, hein, d'autant plus que Catherine, la petite amie, le pousse à se marier, à avoir un enfant, enfin à prendre ses responsabilités. Et la nuit, il se retrouve plongé dans des cauchemars dans lesquels il est entouré de moutons et il doit grimper un mur fait de blocs qu'il doit pousser sous peine de mourir. Donc une situation qui n'est pas terrible. Hein, et donc, vous voyez, c'est pas très enviable. Et donc le jeu se présente sous la forme d'une série télé un peu à la manière de la quatrième dimension qui s'appelle le Golden Playhouse et qui est présentée par une version très japonaise d'Elvira puisqu'elle aurait remplacé son maquillage gothique par une gigantesque afro rousse, un truc totalement improbable, et des habits disco évidemment, ça semble être le minimum. Alors le jeu est découpé en 9 journées qui sont divisées en deux séquences. Alors le jour, on suit la vie quotidienne de Vincent Brooks. Alors c'est la partie où il y a le moins de gameplay. Hein. On passe son temps généralement à suivre des séquences animées qui sont de très bonne qualité d'ailleurs. De son lever toujours brutal, hein. Il commence sa première journée en s'apercevant qu'il a pissé au lit. Hein. Ouais, une peur panique l'a envahi. Et jusqu'à la soirée qui finit toujours au bar, qui s'appelle le Stray Ship et qui est tenu par une sorte de Marlon Brando dans Le Parrain, toujours avec une paire de lunettes de soleil. Alors il y retrouve ses amis et il y fait la rencontre de la deuxième Catherine. Alors le bar, c'est la seule séquence de gameplay de la journée. Alors on peut discuter avec les improbables piliers de bar. Donc on a les jumelles retraitées qui parlent de leurs anciens amants morts. Le journaliste suicidaire, les vendeurs de sous-vêtements, et on peut effectuer quelques actions, boire un coup, répondre à des emails, écouter de la musique sur un jukebox qui passe la musique de Shin Megami Tensei et de Persona, jouer à un jeu sur une borne d'arcade. Et alors, la nuit, par contre, c'est vraiment le centre du gameplay, hein, parce qu'on a des séquences de cauchemars donc, où Vincent, en caleçon, avec des cornes sur la tête et armé d'un oreiller, va grimper sur le mur pour sa survie. Alors d'ailleurs, il est en caleçon et c'est possible. C'est peut-être une référence à Ghouls and Ghosts, hein, puisqu'il est lui aussi équipé d'un caleçon à cœur. Un caleçon absolument magnifique. Alors dans cette partie-là, donc c'est vraiment un puzzle game. Il faut déplacer des cubes le plus vite possible pour escalader. Donc ça obéit à des règles assez précises. On peut grimper que d'un étage à chaque fois. Les blocs tiennent à partir du moment où ils touchent l'arête d'une autre. Donc des lois de physique bien particulières. Alors certains sont plus lourds, d'autres sont piégés. Et parfois, on entre en concurrence avec un mouton. Parce que les moutons sont d'autres personnes qui cherchent elles aussi à survivre, sachant que les blocs s'effondrent les uns après les autres. Alors, d'ailleurs, une fois qu'on a terminé un de ces niveaux, on retrouve les moutons dans une sorte d'église. Et là, on peut discuter avec eux pour s'apercevoir qu'on les a peut-être déjà croisés quelque part. Et en fait, on s'aperçoit que ce sont les piliers de bar ou les amis de Vincent, toujours des hommes. Parce qu'ils sont, victimes d'une malédiction qui n'intervient que quand ils trompent leur femme. Oui, c'est un peu particulier.
Oui, oui, non, mais je.
C'est japonais.
C'est totalement japonais.
Tout de suite. Non, je sais qu'on voit pas à l'antenne que j'ai les sourcils froncés depuis 5 minutes, mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce que c'est que ça?
Mais en même temps, je trouve ça très bien d'avoir ça des choses qui sortent de l'ordinaire. Enfin, vas-y, continue.
Et donc, une fois qu'on a parlé aux moutons, on peut les conseiller, les aider pour les aider eux aussi à survivre. On doit filer au confessionnal où on doit répondre à une question généralement assez bateau. Êtes-vous pour ou contre le mariage? Qu'est-ce qui compte le plus, l'amour ou le travail? Et une fois qu'on a répondu à cette question-là, on voit les réponses des autres joueurs. Et puis le confessionnal s'envole comme une fusée. Le confessionnal a un petit réacteur. On va vers le prochain mur qui est généralement celui de l'affrontement contre le boss. Donc c'est généralement une créature terrifiante qui est issue de la journée de Vincent. Donc on peut retrouver par exemple une version démoniaque de sa petite amie pendant qu'elle était au restaurant, quelque chose qui est entre le bébé et le fœtus, on ne sait pas trop, mais qui est globalement assez effrayant. C'est là qu'on peut voir que Vincent cherche toujours à fuir ses responsabilités. C'est probablement des aspects les plus intéressants du jeu.
C'est toujours en puzzle game que ça.
C'est toujours en puzzle game ce passage-là. C'est toujours des séries de blocs à monter. Et donc, ouais, on voit que dans la journée, Vincent passe son temps à fuir ses responsabilités. On voit aussi que dans ses cauchemars, il les fuit également. Alors, tout ça jusqu'à une des 8 fins. Donc, il y a 3 fins par Catherine différentes. Et 2 autres fins où Vincent décide de quitter les deux. Alors, la fuite, c'est pas seulement un choix dans ce jeu-là. C'est aussi une obligation, puisque la malédiction fait que tous ceux qui meurent dans le rêve meurent aussi dans la réalité. On s'aperçoit que si on n'aide pas les autres moutons lors des séquences à l'église ou dans le bar, on s'aperçoit que le bar se dépeuple et on voit aux infos qu'ils meurent les uns après les autres. Donc on sait qu'on doit s'échapper. Et par contre, y a d'autres moyens de s'occuper dans le jeu aussi. Si on s'ennuie, par contre, on peut jouer aussi un jeu d'arcade, donc Rapunzel. Donc il a donné
réponse
chez nous, oui. Alors c'est intéressant parce que le jeu fonctionne exactement sur le même principe que les séquences de nuit. Sauf que là, le but est complètement différent puisqu'il s'agit d'aller rejoindre la princesse et pas d'y échapper, contrairement à ce qu'on faisait pendant tout le reste du jeu. Alors l'autre point fort du jeu, c'est l'écriture des personnages. Si le personnage principal est un peu cliché, le trentenaire qui fuit ses responsabilités, sa petite amie par exemple n'est pas du tout ce qu'on attendait d'elle. C'est une femme plutôt forte, froide et colérique. L'autre Catherine est une figure dont on se doute qu'elle est, qu'elle semble trop parfaite pour être véritablement honnête. On a aussi Orlando, un des amis de Vincent, qui est un jeune divorcé en pleine dépression. Et on apprend au fur et à mesure aussi que, par exemple, la serveuse du bar, Erika, n'a pas toujours été une femme. Mais c'est dit assez subtilement par petites remarques ou des petits mots comme ça qui sont glissés entre les personnages.
Ah oui, parce que c'est quand même un sujet qui mérite d'être abordé un peu subtilement, sinon ça devient...
Et en fait, il n'y a strictement aucun jugement sur ce personnage-là. Au contraire, c'est même le personnage le plus féminin de tout le jeu. Et tout le monde, tous les personnages la considèrent vraiment comme une femme. Donc
j'ai pas d'autres exemples de jeux avec...
C'est très très rare, oui.
Enfin, c'est même très rare d'ailleurs en dehors du monde des jeux, de toute façon.
Oui.
Mais c'est intéressant.
C'est pour ça que les personnages sont plutôt intéressants. C'est un jeu que je conseille. Je conseille plutôt fortement, au moins d'essayer, parce que c'est vrai que c'est un jeu assez particulier. Je sais que Thibaut a essayé, que ça lui a pas...
Oh non, j'ai vu des vidéos de gameplay, on en a parlé... J'ai froncé les sourcils comme Yann.
Non, mais je fronce les sourcils de manière pas forcément négative non plus. Hein.
Ah non, mais moi aussi.
D'ailleurs, enfin, ce que tu viens de dire, je vais avoir. Non, mais je dis ça pour récupérer un petit peu parce qu'on a fait un peu des blagues graveleuses plus tôt dans cette émission. Mais je trouve qu'un jeu qui présente un personnage transsexuel de manière finalement ordinaire, je trouve que c'est suffisamment rare pour être signalé, quoi. Mm-hmm. Mais à côté de ça, en même temps, il y a les deux personnages de féminins, enfin les deux Catherine, enfin tel que tu les décris, ils ont l'air un petit peu plus clichés quand même.
En fait, la Catherine avec un C est complètement cliché, mais c'est volontaire. C'est un peu la femme qui va attirer de toute manière, quoi qu'il arrive. C'est la séductrice. Alors que l'autre, elle est un peu moins, elle est plus complexe quand même. Elle est un petit peu plus complexe. Mais c'est vrai que le personnage d'Erika, par contre, est un des personnages les plus intéressants qu'on puisse voir dans ce genre de jeu. Alors c'est vrai que par contre, il faut se méfier. Donc c'est un jeu qui est vraiment particulier et qui est quand même très très dur.
Bon. Donc ça s'appelle Catherine et c'est sorti sur c'est sur quel support que ça
PlayStation
se trouve,
hein 3 et Xbox 360.
Finish him.
Oh non, c'est déjà fini. Encore un mois à attendre. Heureusement, cette émission et toutes les autres sont à retrouver en podcast sur www.prune.net.
Game over.
Vous pouvez retrouver cette émission sur podcast. Vous pouvez venir tout l'après-midi visiter les locaux de Prune et vous pouvez nous retrouver le 14 mars en direct. À bientôt. Bon, on a le temps de se dire au revoir un petit peu, en fait. J'avais un peu peur, j'étais un petit peu pris au dépourvu par notre ami la playlist, puisque qui annonçait directement l'émission, mais en fait, elle est dans l'émission suivante, mais en fait, elle est dans 3 minutes, hein, puisque dans 3 minutes, on va laisser l'antenne à l'émission Comic Strip. L'émission de bande dessinée de Prune, hein, qui est une mensuelle comme la nôtre, donc on a le temps de vraiment se dire au revoir, pas comme des cochons du coup.
Oui, donc, bah, c'est le cas de le dire.
À dans un mois, profitez cet après-midi pour venir nous voir, pour venir voir Sun FM, et puis jouez bien, voilà. Salut à tous.
À dans un mois.
Salut.